Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide pour vous accompagner dans Le Monde aujourd'hui, en ce mercredi 8 décembre 2021. Une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique à la une de l'actualité ce soir. En RD Congo, l'armée et la MONUSCO, la force onusienne, ont paraphé un accord pour des opérations conjointes contre les nombreux groupes armés. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed quitte le front et revient à Addis Abeba. Tournée du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian en Algérie après 2 mois de crise entre Paris et Alger. Une page se tourne en Allemagne. Olaf Scholz succède à Angela Merkel à la chancellerie et promet un nouveau départ. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports dans environ 10 minutes. En République démocratique du Congo, l'armée et la MONUSCO, la force de l'ONU, se sont dotées d'un cadre pour mener des opérations conjointes contre les groupes armés dans l'est du pays. Le document, intitulé Directive des opérations conjointes, a été signé par le chef des FRDC, le général Céleste Mbala, et le commandant de la MONUSCO, Afonso Da Costa. Les détails avec Nathalie Barge.
Le général Afonso Da Costa a déclaré que désormais, toutes les forces de la MONUSCO sont en condition d'utiliser le mandat contenu dans le chapitre 7 des Nations Unies qui autorise l'usage de la force. Il a précisé que les casques bleus pourront utiliser l'artillerie et les hélicoptères d'attaque en soutien aux opérations conjointes FARDC-MONUSCO. Signant le document au siège de l'armée congolaise, le général Célestin Mbala a estimé que la directive des opérations conjointes était une occasion pour l'ensemble des contingents des casques bleus en RDC de s'engager pour l'application stricte de la force contre les groupes armés. Toutefois, la MONUSCO ne participera pas aux offensives conjointes des soldats congolais et ougandais, mais les trois forces partagent les renseignements. Dotée de 16 000 militaires et policiers, la MONUSCO figure parmi les opérations de paix les plus coûteuses de l'ONU, avec un budget annuel de plus d'$1 milliard. Malgré sa présence depuis plus de 20 ans dans le pays, les attaques de dizaines de groupes armés et milices continuent de faire des milliers de morts parmi les civils.
Au Nigeria, 23 personnes sont mortes dans un incendie provoqué par des hommes armés qui ont tiré sur un bus dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du pays. Les causes de l'attaque survenue lundi demeurent inconnues, mais le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre depuis plusieurs années d'attaques de bandes de criminels appelées bandits localement qui pillent et enlèvent villageois et voyageurs. Ils ont récemment intensifié leurs attaques notamment dans l'état de Sokoto. En Éthiopie, le chef du gouvernement, Abiy Ahmed, indique avoir regagné son bureau dans la capitale Addis Abeba aujourd'hui, après avoir passé 2 semaines sur la ligne de front. Il affirme avoir repris plusieurs villes aux rebelles tigréens. Le point avec John Lyndon.
Je retourne au bureau car j'ai terminé la première phase, a déclaré le premier ministre dans un communiqué affirmant que les dernières semaines ont humilié l'ennemi et redressé l'Éthiopie. La lutte n'est pas encore terminée, il y a des zones qui n'ont pas été libérées. Nous devons proposer une solution durable pour nous assurer que l'ennemi qui nous a mis à l'épreuve ne redevienne pas un danger pour l'Éthiopie, a-t-il ajouté. Les médias d'État ont annoncé le 24 novembre qu'Abiy Ahmed avait laissé la gestion des affaires courantes à son vice-premier ministre pour se rendre sur le champ de bataille et mener une contre-offensive face aux rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Les rebelles du TPLF qui ont démenti que le gouvernement a repris l'avantage militairement. Affirmant que l'armée éthiopienne n'a repris que des zones abandonnées après des retraites stratégiques opérées par les rebelles. Les communications sont toujours coupées dans les zones de combat et l'accès des journalistes est restreint. ce qui rend difficile toute vérification indépendante.
Le processus de paix au Soudan du Sud est sérieusement menacé d'après l'ONU, qui évoque la mise en application trop lente de l'accord de paix paraphé en 2018. Elle appelle à relancer les pourparlers. Le pays est en proie à une crise économique et politique chronique et peine à se remettre de la guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés. Selon l'accord, le président Salva Kiir et l'ancien rebelle et ancien vice-président Riek Machar partage le pouvoir dans un gouvernement du nom national. Le patron de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a entamé aujourd'hui un périple en Algérie pour relancer la relation bilatérale après plus de 2 mois d'une crise d'une rare gravité alimentée par un conflit mémoriel entre Paris et Alger. Davantage avec Ginny Kapumbu-Villa.
Jean-Yves Le Drian a rencontré son homologue algérien Ramtane Lamara avant d'être reçu par le président algérien Abdelmajid Tebboune. La teneur des discussions n'a pas été dévoilée. Il s'agit d'une visite de travail, d'évaluation et de relance des relations, a indiqué le Quai d'Orsay. Son déplacement a été tenu secret jusqu'au dernier moment. Le président Emmanuel Macron a déclenché la colère d'Alger en octobre en accusant, d'après le journal Le Monde, le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance. D'après le quotidien, il s'était également interrogé sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. En signe de protestation, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur à Paris le 3 octobre et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français ralliant le Sahel. Le président français a depuis fait part de ses regrets. Il a donc chargé son ministre des Affaires étrangères d'une mission délicate, le retour à une normalité avec l'Algérie.
Washington félicite le chef de l'État gambien, Adama Barrow, pour sa réélection malgré des irrégularités mineures, en le pressant de mener à bien les réformes promises il y a 5 ans et non réalisées. Des opposants ont contesté les résultats de la présidentielle de samedi dernier. Le département d'État parle d'élections libres et justes, caractérisées par l'absence de violence et une participation proche de 90%. Au Burkina Faso, des dirigeants de la société civile, interpellés après une manifestation dite illégale contre l'insécurité dans le pays, seront jugés mercredi prochain au tribunal de Ouagadougou. Hervé Ouattara, Mamadou Drabo, Adama Tsendré-Béogo ont comparu aujourd'hui devant le tribunal de grande instance à Ouagadougou. L'affaire a été renvoyée au 15 décembre pour jugement, le temps de prendre en compte 2 autres inculpés, Marcel Tankouane et Abdoul Karim Baganian. Le 27 novembre, des incidents ont éclaté à Ouaga après la dispersion à coups de gaz lacrymogène de manifestants qui dénonçaient l'incapacité du pouvoir à endiguer les attaques djihadistes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
2 mois et demi après les législatives en Allemagne, le social-démocrate Olaf Scholz est devenu le nouveau chancelier de la première économie européenne aujourd'hui, élu par les députés pour succéder à Angela Merkel. Olaf Scholz promet un nouveau départ. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
À 14h GMT, Angela Merkel a accueilli à la chancellerie son successeur. Elle l'a appelé à travailler pour le bien de l'Allemagne. Olaf Scholz lui a en retour rendu hommage et a promis un nouveau départ. Dans la matinée, M. Scholz, 63 ans, a prêté serment au Bundestag, promettant de consacrer ses forces au bien du peuple allemand. D'énormes défis attendent M. Scholz et son équipe, dont une situation sanitaire critique. Le chancelier a la grande responsabilité de lutter contre la flambée de Covid-19 dans le pays, a prévenu le président de la République fédérale. Le nouveau chancelier va aussi devoir composer avec une situation économique défavorable, plombée par une croissance plus faible qu'annoncée et le retour de l'inflation. Le président français Emmanuel Macron lui a promis d'écrire la suite ensemble. La présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, entend travailler avec lui pour une Europe forte. M. Scholz va les rencontrer séparément vendredi pour son premier déplacement à l'étranger. Angela Merkel a donc quitté la chancellerie allemande après 16 ans à la tête du gouvernement. À 67 ans, elle se retire définitivement de la vie politique.
Le président russe Vladimir Poutine juge que son pays a le droit de se défendre au lendemain d'un entretien avec son homologue américain Joe Biden autour des tensions entre Moscou et l'Ukraine. La Russie mène une politique extérieure pour la paix, mais elle a le droit de protéger sa sécurité, indique Vladimir Poutine. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, il est d'avis que laisser l'OTAN s'approcher de ses frontières sans réagir serait criminel. Il a néanmoins jugé constructif son échange avec Joe Biden. Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait état à son tour d'un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin auquel aucun ministre de son gouvernement ne prévoit de se rendre. Les États-Unis et l'Australie ont déjà indiqué en début de semaine une mesure similaire pour ces Jeux qui vont commencer le 4 février prochain. L'annonce de la décision américaine a provoqué la colère de Pékin, celle de l'Australie, le mépris, la diplomatie chinoise estimant, je cite, « tout le monde se fiche de savoir si Canberra envoie ou non des représentants officiels ». Fin de citation. Le Chili rejoint la trentaine de pays au monde autorisant le mariage pour tous, une demande de longue date de la communauté homosexuelle dans ce pays catholique d'Amérique latine. Le projet de loi déposé devant le Parlement en 2017 à l'initiative de l'ex-présidente socialiste Michelle Bachelet au cours de son second mandat a été approuvé hier. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, un condensé des nouvelles économiques, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gébourg ce soir.
Au Cameroun, la mise en service de la mini-centrale hydroélectrique de Mbakaou Carrière dans la région de l'Adamawa devrait être finalement opérationnelle en 2022. Ecofin précise que ce second report du lancement de la centrale coûte cher à l'État qui doit continuer l'approvisionnement en gasoil des centrales thermiques de Tibatou et de Mbakaou. Le gouvernement sénégalais et l'Agence française de développement ont signé hier un protocole d'accord visant à renforcer la dynamique entrepreneuriale et le secteur privé au Sénégal. Selon Financial Afrique, l'AFD s'engage ainsi à soutenir les réformes de l'État sénégalais en mettant à disposition des outils d'assistance technique ainsi que des financements pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros sur 3 ans. Au Malawi, l'ex-ministre des Finances et l'ancien gouverneur de la Banque centrale ont été arrêtés pour avoir fourni des bilans truqués au FMI, a annoncé la police. Les deux hommes ont orchestré la falsification des déclarations de la dette brute et des réserves pour obtenir des facilités de crédit. Quand le FMI a découvert l'arnaque, les aides ont été suspendues au détriment des Malawites ordinaires, a ajouté la police.
Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est avec Bagassi Koura. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Suite de la Ligue des Champions en Europe à suivre entre autres ce soir, Juventus Turin contre Malmö, le Bayern Munich affronte le FC Barcelone et Manchester United joue contre Young Boys. Hier, l'Atlético Madrid a arraché un billet presque inespéré pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire 3-1 face à Porto. Le Paris Saint-Germain a battu le club Bruges avec 2 doublés signés Kylian Mbappé et Lionel Messi. Manchester City est assuré de la première place du groupe devant le PSG en dépit de sa défaite 2-1 à Leipzig. L'AC Milan a été renversé à domicile par Liverpool 2-1. Buteur sur pénalty contre le Sporting Portugal 4-2. L'avant-centre international ivoirien Sébastien Haller de l'Ajax d'Amsterdam a inscrit son 10e but cette saison en C1. Haller passe ainsi seul en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions avec donc 10 unités à l'issue de ses matchs de la 6e journée disputée ce mardi. Dans l'autre rencontre, Dortmund a étrié Besiktas pour l'honneur 5-0. Le Borussia Dortmund sera reversé en Ligue Europa. Le choc Real Inter a souri au Madrilène 2-0. Dans l'autre match, le Shakhtar Donetsk et le Sheriff Tiraspol se sont neutralisés 1-1. Voici donc la liste des clubs déjà qualifiés. Manchester City, le Paris Saint-Germain, Liverpool, Atlético Madrid, l'Ajax d'Amsterdam, le Sporting Lisbonne, le Real Madrid, Inter Milan, le Bayern Munich, Manchester United, Juventus et Chelsea.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Le 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité a pris fin hier. La lutte contre les groupes terroristes dans le Sahel a été un des points forts des débats. Les États-Unis ont été représentés par Tobin Bradley, le sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et de répression. Joint à Dakar par Abdourahmane Dia, Tobin Bradley tire pour nous les enseignements de ce forum.
Le Forum international de Dakar sur la sécurité a vraiment témoigné du désir des pays africains de prendre l'initiative de relever les défis urgents en matière de sécurité. Il témoigne des grands défis que nous avons et auxquels nous faisons face, et aussi des solutions que nous pouvons réaliser ensemble.
Comment est-ce que les États-Unis comptent-ils appuyer les efforts de lutte contre les groupes armés dans le Sahel? Est-ce une présence militaire accrue ou bien c'est dans d'autres domaines que les États-Unis comptent appuyer la région?
Combattre les groupes armés au Sahel est extrêmement complexe. Pourtant, nous savons que les solutions militaires seules ne fonctionnent pas et les États-Unis soutiennent divers programmes ciblant les causes profondes de l'extrémisme, notamment la nécessité pour les gouvernements partenaires de gagner et de conserver la confiance de leurs citoyens. Par exemple, mon bureau, le Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et de répression au département d'État, soutient des programmes de sécurité à travers le Sahel dans lequel les forces de l'ordre et un ensemble de services ont formé des partenaires pour améliorer la sécurité et instaurer la confiance. Ce que nous essayons vraiment de faire, c'est de consolider les institutions qui permettent de rendre les activités terroristes moins attrayantes au sens large.
Monsieur Bradley, comment est-ce que les États-Unis apprécient-ils le travail des instances comme le G5 Sahel? Est-ce que Washington privilégie la coopération directe avec les États ou à travers des instances comme le G5?
Je dirais que les organisations régionales jouent un rôle essentiel dans la diffusion des meilleures pratiques, dans les opérations conjointes, le partage d'informations. Des efforts d'organisation comme le G5 Sahel ou d'autres organisations régionales comme la CDAO, tout comme les ONG et les réseaux d'organisations maritimes régionales, sont des initiatives puissantes sur les intérêts communs et l'engagement à lutter contre la menace croissante et dans la région. Cela dit, toute initiative régionale n'a que le reflet des forces de ces éléments constitutifs. Nous souhaitons donc également travailler avec les nations pour qu'elles puissent élever leurs institutions et leurs capacités aux normes internationales afin qu'elles puissent être des partenaires plus efficaces lorsqu'elles se mettent ensemble dans ces organisations régionales.
C'était Tobin Bradley, sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau américain des Affaires internationales de stupéfiants et de répression.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, l'armée, la MONUSCO, la force de l'ONU, se sont dotées d'un cadre pour mener des opérations conjointes contre la centaine de groupes armés sur le territoire congolais. Désormais, avec le nouveau manuel de procédure, la MONUSCO va passer à l'action, d'après le général Afonso da Costa, commandant en chef de la force onusienne. Edi Sango a joint à Kinshasa l'un des membres de la commission de suivi et d'évaluation de l'Assemblée nationale, le député Gracien de Saint-Nicolas Iratian.
Depuis un certain temps, les forces de la MONUSCO et les forces de la République démocratique du Congo ne pouvaient plus faire les opérations ensemble. Donc, il y avait des divergences sur les plans d'action, d'attaque, donc des offensives. Et donc, ce qui est nouveau est que maintenant, ils vont avoir un plan commun pour pouvoir combattre ensemble au niveau des groupes armés qui sont en train de tuer la population à l'est. Mais aussi, il faut affirmer que la MONUSCO avait posé des conditions, qu'elle ne pouvait pas travailler avec des officiers qui sont impliqués dans les crimes selon les différents rapports internationaux. Et donc maintenant, c'est vrai que cette collaboration va se passer avec des officiers dont on ne reproche pas des criminalités sur terrain. Donc c'est ça les défis nouveaux. Les premiers, c'est le fait d'avoir un plan commun pour pouvoir combattre ensemble, attaquer les groupes armés. Mais de deux, avoir des officiers qui ont les mêmes propres, qui ne sont pas impliqués dans les crimes contre l'humanité ou les crimes de masse dans les différentes zones sous opération.
Le chef d'état-major de l'armée congolaise, le général Célestin Mbala, a demandé à la MONUSCO d'appliquer le chapitre 7. J'ai appelé tout à l'heure la MONUSCO. Le porte-parole m'a dit que la MONUSCO a toujours appliqué le chapitre 7. Ça veut dire quoi dans tout cela, vous qui êtes dans la commission des suivis? Est-ce que la MONUSCO va maintenant faire la guerre avec les rebelles et les milices sur le sol congolais?
Évidemment, la MONUSCO a toujours été sous chapitre 7, compte tenu de tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Mais c'est vrai que ce chapitre 7 n'a pas toujours été utilisé ou appliqué comme il faut. Alors, évidemment, ce sont les brigades d'intervention qui s'occupaient beaucoup à pouvoir appliquer ce chapitre 7. Et vous savez que depuis un certain temps, depuis que la position des FRDC vers la région de Nord Kivu, là où il y a le triangle de la mort, l'axe Mbaou, Kamango, a été attaqué. Et finalement, cette brigade d'intervention a fait presque marche arrière et n'a pas continué à travailler comme il faut avec ce chapitre 7. Du coup, on n'a pas vu les forces des Nations Unies pouvoir s'impliquer activement par la force. Et après, il y a eu alors des observations selon lesquelles les Nations Unies reprochaient qu'il y avait des officiers qui avaient des mains sales, qui auraient participé à des crimes au niveau des différents fronts et que les Nations Unies ne se sentaient pas capables de pouvoir travailler avec ce genre de personnes. Et donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il y avait aussi des problèmes. Et voilà un peu que peut-être que maintenant, ils vont revenir pour appliquer réellement ce chapitre 7. Parce qu'on a toujours déploré que ce chapitre 7 ne soit pas appliqué comme il faut.
Le député Gratien de Saint-Nicolas Iratian, membre de la commission de suivi et d'évaluation du Parlement congolais.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Les Nigérians se tournent vers le bois et le charbon de bois moins cher pour cuisiner après que les prix du gaz ont doublé en octobre dernier. Les fournisseurs de gaz liquéfié et les écologistes exhortent les autorités à faire baisser les prix pour les consommateurs et prévenir une augmentation de la pollution due à la fumée des feux de bois. Un reportage de Timothy Obiezu depuis Abuja, le récit est de Rosine Munezero.
Fedra Igris s'apprête à préparer la soupe à fang pour sa famille. Mais il y a un problème, son réservoir de gaz de cuisine est vide. Pour le remplir, cela va coûter environ $25, soit plus du double de prix depuis octobre.
Cette pénurie de gaz et le prix élevé, c'est insupportable parce qu'aller au marché en ce moment, acheter des produits alimentaires est coûteux et revenir pour cuisiner à nouveau avec le gaz est coûteux. Ce n'est pas facile.
Les revendeurs nigérians attribuent la hausse du prix du gaz à l'introduction en août d'une taxe à l'importation ou TVA de 7,5% sur le gaz dans le but d'élargir les revenus du pays. Jusqu'à 70% du gaz consommé au Nigeria, le plus gros producteur de pétrole du continent, provient des importations et le pays possède de grandes réserves de gaz. Les économistes affirment aussi que la dévaluation du Naira, la monnaie nigériane, et l'afflux instable en devises étrangères ont contribué à la hausse des prix. Conséquence, de nombreux Nigérians, comme Igri, se tournent vers des alternatives moins coûteuses, c'est-à-dire le bois de chauffe et le charbon de bois.
Nous l'utilisons simplement parce que moins c'est gérable. Si vous voulez aller pour le gaz, c'est assez cher.
La demande croissante de charbon de bois aide les revendeurs locaux, comme Achirou Mohamed.
Les affaires n'étaient pas aussi bonnes avant parce que plus de gens utilisaient le gaz. Maintenant, ils achètent tous du charbon de bois.
Mais cette forte demande de charbon de bois pourrait entraîner une grave déforestation, préviennent les écologistes. Le mois dernier, l'Association nigériane des revendeurs de gaz a demandé au président Muhammadu Buhari de s'attaquer à ce problème. Les autorités n'ont pas encore répondu, mais lors du récent sommet mondial sur le changement climatique, le président Buhari s'est engagé à mettre fin à la déforestation d'ici 2030 et aux émissions de carbone d'ici 2060, ce qui rend encore plus sceptiques les défenseurs de l'environnement.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et à présent, un peu de rythme, si vous le permettez. La rumba, une musique très importante dans la vie congolaise, une passion partagée par tous les Congolais. La rumba est décrite comme un élément fédérateur de cohésion sociale, mais aussi du passé et du présent. La République démocratique du Congo et sa voisine, la République du Congo, s'unissent pour demander à l'UNESCO d'admettre la rumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Les détails avec Didi Dico.
La rumba fait danser les Congolais à Kinshasa et Brazzaville sur des rythmes tantôt lents, tantôt bouillonnants. Ici, cette musique est un véritable trésor national et dès la semaine prochaine, l'UNESCO dira si la rumba congolaise, comme la cubaine il y a 5 ans, est admise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Écoutons le professeur André Yoka, directeur de l'Institut National des Arts à Kinshasa et également président de la commission mixte pour la promotion de la rumba congolaise en vue de son inscription au patrimoine de l'humanité.
C'est une passion partagée par tous les Congolais, que ce soit du point de vue profane d'ailleurs, que du point de vue religieux aujourd'hui. Et elle est devenue holistique, elle est devenue tentaculaire de tous les domaines de la vie nationale.
Le professeur André Yoka ajoute que la rumba est un élément fédérateur de cohésion sociale, mais aussi du passé et du présent. Adulée des deux côtés du fleuve Congo, ses origines se trouvent dans l'ancien royaume Congo, où l'on pratiquait une danse appelée Nkumba, qui signifie nombril, parce qu'elle faisait danser hommes et femmes, nombril contre nombril. Avec la traite négrière, les Africains ont introduit cette musique dans les Amériques. Au nord, elle s'est muée en jazz et au sud, en d'autres déclinaisons de la rumba. Gabriel Kelly, chercheur en histoire de la musique, explique que la rumba a énormément voyagé.
Les esclaves dans les bateaux jouaient de la musique du jazz. Et la rumba, s'il faut voir la rumba, nous devons aussi voir du côté de Brésil, Cuba, l'Amérique latine. C'est une symbiose que plus nos musiciens d'ici ont pu exploiter aussi.
Dans sa version moderne, la rumba a une centaine d'années et ses textes sont essentiellement chantés en lingala. Le thème principal est souvent l'amour, mais la rumba fait également passer des messages critiques et politiques. Et lorsqu'on parle de rumba et de politique, il est important de mentionner le titre « Indépendance Cha-Cha », devenu une sorte d'hymne des indépendances africaines dans les années 60. Otis Kestoy est directeur de l'orchestre de la Rumba Fiesta. Il nous en dit plus.
La composition de la chanson mythique de l'indépendance, Indépendance Cha-Cha, de notre pays est l'un des triomphes de l'histoire de notre musique. C'est une fierté pour nous et pour notre pays, le Congo.
En attendant de savoir si la rumba congolaise est inscrite au patrimoine culturel de l'humanité, les amoureux du genre affirment que la relève est assurée par de nouveaux artistes, dignes héritiers de cette musique.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.